Chapitre 4. La résistance la plus obstinée fut celle du Parlement de Bretagne. Par 3 fois, il refusa l'enregistrement et il se croyait en mesure de soutenir ce refus. D'une part, il avait la noblesse qui s'assemblait à Saint-Malo, les nombreux et très fidèles domestiques des nobles, les siens, sa clientèle dans les villes, ses amis dans les confréries, dans les corporations de métiers. Ajoutez la facilité de recruter dans cette foule d'ouvriers sans ouvrage, de gens qui vaguaient dans les rues mourant de faim, les villes les voyaient travailler et préparer la guerre civile. Environnées de campagnes hostiles ou douteuses, elles pouvaient être affamées. Elles tranchèrent le nœud qui tardait à se dénouer. Rennes et Nantes, Vannes et Saint-Malo envoyèrent à l'Assemblée des accusations foudroyantes, déclarant qu'elles abjureraient tout rapport avec les traîtres. Sans rien attendre, la garde nationale de Rennes entra au château et s'assura des canons. 18 décembre 89. L'Assemblée prit 2 mesures. Elle manda le Parlement de Bretagne à comparaître devant elle. Elle accueillit la pétition de Rennes qui sollicitait la création d'autres tribunaux. Elle commença son beau travail sur l'organisation d'une justice digne de ce nom, non payée, non achetée ni héréditaire, sortie du peuple et pour le peuple. Le premier article d'une telle organisation était, bien entendu, la suppression des parlements. 22 décembre 89. Touré, l'auteur du rapport, établit parfaitement cette vérité, trop oubliée depuis, qu'une révolution qui veut durer doit, avant tout, ôter à ses ennemis l'épée de justice. Étrange contradiction de dire au système qu'on renverse. Ton principe m'est opposé. Je l'efface des lois du gouvernement. Mais en toute affaire privée, tu l'appliqueras contre moi. Comment méconnaître ainsi la toute-puissance, modeste, sourde, mais terrible, du pouvoir judiciaire, son invincible absorption? Tout pouvoir a besoin de lui. Lui, il se passe des autres. Donnez-moi le pouvoir judiciaire, gardez vos lois, vos ordonnances, tout ce monde de papier. Je me charge de faire triompher le système le plus contraire à vos lois. Il leur fallut bien venir, ces vieux tyrans parlementaires au pied de la nation. 8 janvier. S'ils n'étaient venus d'eux-mêmes, la Bretagne aurait plutôt levé une armée exprès pour les y traîner. Ils comparurent avec arrogance, un mépris mal déguisé pour cette assemblée d'avocats, n'entendant guère plus de compte qu'au jour où, d'en haut, ils écrasaient le barreau de pesantes mercuriales. Les rôles ici étaient changés. Au reste, qu'apportaient les personnes? C'était devant la raison qu'il fallait répondre, devant les principes posés pour la première fois. Leur superbe baissa tout à fait. Ils furent comme cloués à la terre quand, de cette assemblée d'avocats, les mots suivants furent lancés. On dit que la Bretagne n'est pas représentée, et dans cette assemblée, elle a 70 représentants. Ce n'est pas dans la vieille charte où la ruse combinée avec la force a trouvé moyen d'opprimer nos peuples qu'il faut chercher les droits de la nation. C'est dans la raison. Ces droits sont anciens comme le temps, sacrés comme la nature. Le président du Parlement de Bretagne n'avait pas défendu le Parlement qui était en cause. Il défendait la Bretagne, qui ne voulait pas être défendue et n'en avait pas besoin. Il allégua les clauses du mariage d'Anne de Bretagne, mariage qui n'était qu'un divorce organisé, stipulé, entre la Bretagne et la France. Il plaidait pour ce divorce, comme un droit qui devait être éternel. Haineuse, insidieuse défense adressée, non à l'Assemblée mais à l'orgueil provincial, provocation retentissante à la guerre civile. La Bretagne avait-elle à craindre de diminuer en devenant France? Est-ce qu'une telle séparation pouvait durer à jamais? Ne fallait-il pas tôt ou tard qu'un mariage plus vrai se fît? La Bretagne a gagné assez à participer à la gloire d'un tel empire. Et cet empire, certes, a gagné, nous en conviendrons toujours, à épouser la pauvre et glorieuse contrée, sa fiancée de granit, cette mère des grands cœurs et des grandes résistances. Ainsi, la défense des parlements trop mauvais se retirait dans la défense des provinces, des états provinciaux. Mais ces états se trouvaient plus faibles encore en un sens. Les parlements étaient des corps homogènes, organisés. Les états n'étaient autre chose que de monstrueuses et barbares constructions, hétérogènes et discordantes. Ce qu'on pouvait dire de meilleur en leur faveur, c'est que tels d'entre eux, ceux du Languedoc par exemple, avaient sagement, prudemment, administré la justice. D'autres, ceux du Dauphiné, sous l'habile direction de Mounier, avait pris la veille de la Révolution une noble initiative. Le même Mounier, fugitif, jeté dans la réaction, avait abusé de son influence sur le Dauphiné pour faire indiquer une convocation prochaine des États, où l'on examinerait si effectivement le roi était libre. À Toulouse, 1 ou 2 centaines de nobles et de parlementaires avaient simulé un essai des réunions d'État. Ceux de Cambrésis, imperceptible assemblée d'un pays imperceptible, qui s'intitulait État, avaient réclamé leur privilège de ne pas être France et dit, comme ceux de Bretagne, « Nous sommes une nation ». Ces fausses et infidèles représentations des provinces venaient audacieusement parler en leur nom, et elles recevaient à l'instant de violents démentis. Les municipalités ressuscitées, pleines de vigueur et d'énergie, venaient, une à une, devant l'Assemblée nationale, dire à ses États, à ses parlements, « Ne parlez pas au nom du peuple. Le peuple ne vous connaît pas. Vous ne représentez que vous-même la vénalité, l'hérédité, le privilège gothique. » La municipalité, corps réel, vivant, on le sent à la force de ses coups, dit à ces vieux corps artificiels, à ces vieilles ruines barbares, l'équivalent du mot déjà signifié au corps du clergé, « Vous n'existez pas. » Ils firent pitié à l'Assemblée. Tout ce qu'elle fit à ceux de Bretagne, ce fut de les déclarer inhabiles à faire ce qu'ils refusaient de faire, de leur interdire toute fonction publique, jusqu'à ce qu'ils eussent présenté requête pour obtenir de prêter serment. 11 janvier. Même indulgence deux mois après pour le Parlement de Bordeaux, qui, saisissant l'occasion des désordres du Midi, se hasarda jusqu'à faire une espèce de réquisitoire contre la Révolution, déclarant dans un acte public qu'elle n'avait fait que du mal, appelant insolemment l'Assemblée, les députés et les bailliages. L'Assemblée eut peu à sévir. Le peuple y suffisait de reste. La Bretagne comprima le Parlement de Bretagne, et celui de Bordeaux fut accusé devant l'Assemblée par la ville même de Bordeaux, qui envoya tout exprès, pour soutenir l'accusation, le jeune et ardent Fonfrède. Ces résistances devenaient tout à fait insignifiantes au milieu de l'immense mouvement populaire qui se déclarait partout. Jamais, depuis les croisades, il n'y eut un tel ébranlement des masses, si général, si profond. Élan de fraternité en 90, tout à l'heure élan de la guerre. Cet élan, d'où commence-t-il? De partout. Nulle origine précise ne peut être assignée à ces grands faits spontanés. Dans l'été de 1789, dans la terreur des brigands, les habitations dispersées, les hameaux même s'effraient de leur isolement. Hameaux et hameaux s'unissent, village et village, la ville même avec la campagne. Confédération, mutuel secours, amitié fraternelle, fraternité, voilà l'idée, le titre de ces pactes. Peu, très peu sont écrits encore. L'idée de fraternité est d'abord assez restreinte. Elle n'implique que les voisins et tout au plus la province. La grande fédération de Bretagne et Anjou a encore ce caractère provincial. Convoquée le 26 novembre, elle s'accomplit en janvier. Au point central de la presqu'île, loin des routes, dans la solitaire petite ville de Pontivy, se réunissent les représentants de 150 000 gardes nationaux. Les cavaliers portaient seuls un uniforme commun, corset rouge et revers noir. Tous les autres, distingués par des revers roses, amarantes, chamois, etc., rappelaient dans l'Union même la diversité des villes qui les envoyaient. Dans leur pacte d'union, auquel ils invitent toutes les municipalités du royaume, ils insistent néanmoins pour former toujours une famille de Bretagne et Anjou, quelle que soit la nouvelle division départementale nécessaire à l'administration. Ils établissent entre leurs villes un système de correspondance. Dans la désorganisation générale, dans l'incertitude où ils sont encore du succès de l'ordre nouveau, ils s'arrangent pour être du moins toujours organisés à part. Dans les pays moins isolés, au croisement des grandes routes, sur les fleuves spécialement, le pacte fraternel prend un sens plus étendu. Les fleuves qui, sous l'Ancien Régime, par la multitude des péages, par les douanes intérieures, n'étaient guère que des limites, des obstacles, des entraves, deviennent, sous le régime de la liberté, les principales voies de circulation. Ils mettent les hommes en rapport d'idées, de sentiments, autant que de commerce. C'est près du Rhône, à 2 lieues de Valence, au petit bourg d'Étoile, que pour la première fois la province est abjurée. 14 communes rurales du Dauphiné s'unissent entre elles et se donnent à la grande unité française, 29 novembre 1789. Belle réponse de ces paysans aux politiques, aux mouniers qui faisaient appel à l'orgueil provincial, à l'esprit de division, qui essayaient d'armer le Dauphiné contre la France. Cette fédération, renouvelée à Montélimar, n'est plus seulement dauphinoise, mais mêlée de plusieurs provinces des deux rives, Dauphiné et Vivarais, Provence et Languedoc. Cette fois donc, ce sont des Français. Grenoble y envoie d'elle-même, malgré sa municipalité, en dépit des politiques. Elle ne se soucie plus de son rôle de capitale, elle aime mieux être France. Tous ensemble, ils répètent le serment sacré que les paysans ont fait déjà en novembre. Plus de province, la patrie. Et s'aider, se nourrir les uns les autres, se passer les blés de main en main par le Rhône. Fleuve sacré qui traverse tant de peuples, de races, de langues, semble avoir hâte d'échanger les produits, les sentiments, les pensées. Il est dans son cours varié, l'universel médiateur, le sociable génius, la fraternité du Midi. C'est au point aimable et rayant de son mariage avec la Saône que sous Auguste, 60 nations des Gaules avaient dressé leur autel. Et c'est au point le plus austère, au passage sérieux, profond, que dominent les monts cuivrés de l'Ardèche, dans la romaine Valence, assis sous son arc éternel, que se fit, le 31 janvier 1790, la première de nos grandes fédérations. 10 000 hommes étaient en armes, qui devaient en représenter plusieurs centaines de mille. Il y avait 30 000 spectateurs. Entre cette immuable antiquité, ces monts immuables, devant ce fleuve grandiose, toujours divers, toujours le même, se fit le serment solennel. Les 10 000, à genoux en terre, les 30 000 à deux genoux, tous ensemble jurèrent la sainte unité de la France. Tout était grand, le lieu, le moment, et, chose rare, les paroles ne furent nullement au-dessous. La sagesse du Dauphiné, l'austérité du Vivarais, le tout animé d'un souffle de Languedoc et de Provence. À l'entrée d'une carrière de sacrifice qu'il prévoyait parfaitement, au moment de commencer l'œuvre grande et laborieuse, ces excellents citoyens se recommandaient les uns aux autres de fonder la liberté sur la seule base solide, la vertu, sur ce qui rend les dévouements faciles, la simplicité, la frugalité, la pureté du cœur. Je voudrais savoir aussi ce que disaient, presque en face, de l'autre côté du Rhône, à Voût, les 100 000 paysans armés qui y firent l'union du Vivarais. C'était encore février, rude saison dans ces froides montagnes. Ni le temps, ni la misère, ni les routes effroyables n'empêchèrent ces pauvres gens d'arriver au rendez-vous. Torrents, verglas, précipices, fonte de neige, rien ne put les arrêter. Une chaleur toute nouvelle était dans l'air. Une fermentation précoce se faisait sentir à eux. Citoyens pour la première fois, évoqués du fond de leur glace au nom inouï de la liberté, ils partirent, comme les rois mages et les bergers de Noël, voyant clair en pleine nuit, suivant, sans pouvoir s'égarer, à travers les brumes d'hiver, une lueur de printemps et l'étoile de la France. Dès longtemps, les 14 villes de Franche-Comté, inquiètes entre les châteaux et les pillards qui forcent et qui brûlent les châteaux, se sont unies à Besançon, se sont promis assistance. Ainsi, par-dessus les désordres, les craintes, les périls, j'entends s'élever peu à peu, répété par ces cœurs imposants dont chacun est un grand peuple, le mot puissant, magnifique, doux à la fois et formidable, qui contiendra tout et calmera tout, la fraternité. Et à mesure que les associations se forment, elles s'associent entre elles comme dans les grandes farandoles du midi. Chaque bande de danseurs qui se forme donne la main à une autre, et la même danse emporte des populations entières. Ici éclate, par une double initiative, le grand cœur de la Bourgogne. Dès le fond même de l'hiver, dans la rareté des subsistances, Dijon invite toutes les municipalités de Bourgogne à aller au secours de Lyon affamé. Lyon a faim et Dijon souffre. Ainsi, ces mots de fraternité, de solidarité nationale ne sont pas des mots. Ce sont des sentiments sincères, des actes réels, efficaces. La même ville de Dijon, liée aux confédérations de Dauphiné et de Vivarais, elle-même en rapport avec celle de Provence et Languedoc, Dijon invite la Bourgogne à donner la main aux villes de la Franche-Comté. Ainsi, l'immense farandole du Sud-Est, liant et formant toujours de nouveaux anneaux, avance jusqu'à Dijon qui se rattache à Paris. Tous sortant de l'égoïsme, tous voulant du bien à tous, tous voulant nourrir les autres, les subsistances commencent à circuler facilement, l'abondance se rétablit. Il semble que par un miracle de la fraternité, une moisson nouvelle soit venue en plein hiver. Nulle trace dans tout cela de l'esprit d'exclusion, d'isolement local qu'on désigna plus tard sous le nom de fédéralisme. Ici, tout au contraire, c'est une conjuration pour l'unité de la France. Ces fédérations de provinces regardent toutes vers le centre. Toutes invoquent l'Assemblée nationale, se rattachent à elle, se donnent à elle, c'est-à-dire à l'unité. Toutes remercient Paris de son appel fraternel. Telle ville lui demande secours. Telle veut être affiliée à sa garde nationale. Clermont lui avait proposé en novembre une association générale des municipalités. À cette époque, en effet, sous la menace des États, des parlements, du clergé, les campagnes étant douteuses, tout le salut de la France semblait placé dans une ligne étroite des villes. Grâce à Dieu, les grandes fédérations résolurent mieux la difficulté. Elles entraînèrent avec les villes un nombre immense des habitants des campagnes, on l'a vu pour le Dauphiné, le Vivarais et le Languedoc. Dans la Bretagne, dans le Quercy, le Rouergue, le Limousin, le Périgord, les campagnes sont moins paisibles. Il y a en février des désordres, des violences. Les mendiants, nourris à grand-peine jusque-là par les municipalités, sortent peu à peu et courent le pays. Les paysans recommencent à forcer les châteaux, brûler les chartes féodales, exécuter par la force les déclarations du 4 août, les promesses de l'Assemblée. En attendant qu'elle y songe, la terreur est dans les campagnes. Les nobles laissent leurs châteaux, viennent se cacher dans les villes, trouver sûreté parmi leurs ennemis. Et ces ennemis les défendent. Les gardes nationaux de la Bretagne, qui viennent de jurer leur ligue contre les nobles, servent aujourd'hui pour les nobles, vont défendre les manoirs où l'on conspirait contre eux. Ceux du Quercy, du Midi en général, furent également magnanimes. Les pillards furent comprimés, les paysans contenus, peu à peu initiés, intéressés au but de la Révolution. À qui donc pouvait-elle profiter plus qu'à eux? Elle avait affranchi des dîmes ceux d'entre eux qui possédaient. Elle allait, entre les autres, créer des propriétaires et par centaines de mille. Elle allait leur donner l'épée, de serre en un jour les faire nobles, les mener par toute la terre à la gloire, aux aventures, tirer d'eux des princes, des rois, et que dis-je bien plus, des héros.